France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Catherine Meurice.
Elsa Boublil.
Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil.
Marcel Proust, La prisonnière.
Thank you.
C'est sur cette valse des fleurs du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski que je vous ai entendu chantonner, transposer pour deux pianos et sous les doigts joyeux et amusés de Martha Argerich et Nicolas Economou que nous vous accueillons Catherine Meurice, ou qui venait de chantonner, dessinatrice qui venait de signer Delacroix, un album dans lequel vous vous emparez du texte de Dumas au sujet de Delacroix, pour en proposer une version renouvelée avec votre fougue, votre regard, vos mots et vos traits, afin que ce soit en vérité une fête pour l'œil et pour l'esprit. Un peu comme cette version de la valse des fleurs, c'est pour ça que je l'ai choisie pour commencer cette émission avec vous. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Elsa.
Et effectivement, il y a quelque chose, bon, la valse des fleurs, j'allais dire très fleurie, mais comme dans votre album de Delacroix, où le trait nous emporte, que ce soit par l'écriture graphique que vous avez choisi de nous offrir ou par les dessins que vous avez faits pour nous faire revivre ou découvrir Delacroix. C'est comme si le trait nous emportait toujours ailleurs.
Oui, dans l'album comme dans ce qu'on vient d'entendre, oui, j'ai l'impression de, je crois qu'on pourrait l'illustrer, il me semble, ça pourrait être un chat qui, on dirait des petites pattes de chat qui se balade ou une pluie qui tombe, enfin c'est extrêmement joyeux surtout là ce qu'on vient d'entendre et c'est vrai que, enfin j'espère qu'il y a une joie telle dans la, enfin comme celle-ci dans l'album de la Croix, oui, parce que le texte de Dumas est vraiment prime sautier, c'est une valse aussi, hein.
Ouais, c'est vrai.
La voix de Dumas, c'est, elle nous entraîne dans une valse qui nous parle d'amitié, surtout parce que voilà, Delacroix était un de ses amis. Mmh. Et Dumas en parle avec chaleur, avec un coffre, il a une allure de baryton, et on pourrait l'entendre chantonner son poème à Delacroix. Ouais, ouais.
Et révolté aussi que Delacroix n'ait pas été suffisamment encensé de son vivant aussi.
Exactement, oui, il peste contre les critiques qui ont pu faire du mal à son ami, et il peste aussi contre voilà, la solitude du peintre à la fin de sa vie. Les derniers mots de Dumas sont très émouvants, je trouve. Mmh. Alors c'est sans doute romancé, hein. Dumas nous raconte quelques petites salades, forcément, mais c'est pas grave, on est tout aussi près du réel et de l'histoire, je suppose. Et en effet, Delacroix meurt la main dans la main de sa Jenny, la servante, sa gouvernante. C'est très beau.
Catherine Meurice, après des études de lettres, vous êtes entrée à l'École Estienne, puis à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. En 2005, vous avez rejoint l'équipe de Charlie Hebdo, pour lequel vous avez collaboré jusqu'aux attentats de janvier 2015, auxquels vous avez échappé. Il vous a été difficile de vous relever, je crois, mais votre résilience est comptée dans la légèreté, paru il y a 2 ans.
Un plus, je crois, 2016.
Ah, 2016, oui, non, il y a 4 ans.
Oui, voilà, déjà ça passe.
Ouais. Oui, oui, oui. La beauté, je crois que c'est central, on va le découvrir avec vous, voir ou entendre avec les yeux ou les oreilles d'un autre, pour revenir à la phrase de Proust, c'est ce qui vous a ramené à la vie.
Oui, et c'est étrange comme j'ai eu ce mot beauté en tête très très vite après l'attentat contre Charlie, ce qui est assez paradoxal parce que je crois qu'on avait mille autres choses à faire et à penser. Enfin, et je me souviens avoir partagé cela avec Philippe Lançon notamment, on s'écrivait quand il était à l'hôpital et il écrivait des chroniques dans le journal, hein, dès qu'il a pu réécrire et il parlait de beauté et moi aussi j'avais ça en tête. Et bon, il se trouve qu'à la fin je lui ai demandé de faire la préface de la légèreté, ça me semblait évident. Et préface magnifique, qui vraiment c'est voilà, il est formidable. Oui, la beauté m'a servi de guide. Je me suis intuitivement, instinctivement accrochée à ce mot et je suis allée la chercher à Rome notamment. Également en France, hein, je me suis baladée notamment face à l'océan. L'océan m'a pas mal lavé la tête, les yeux, m'a même procuré certaines expériences un peu étranges où j'avais l'impression d'être dans le paysage, dans les éléments, dans des tableaux, etc. Mmh. Donc voilà, peinture et nature et beauté se sont mélangées pour faire en sorte que je ne sombre pas totalement.
Pour ceux qui arriveraient en cours d'émission, la phrase de Proust, c'était « Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres. Et cela, nous le pouvons avec Elstir, avec un Vinteuil. »
Voilà, Elstir, peintre, Vinteuil, musicien, comme par hasard. Thank you.
clarinette, piano, le coucou au fond des bois du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, interprété par Guer et Suer Perkinel et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Marek Janowski. C'est un souvenir d'enfance, je crois, Catherine Meurice. Vous l'avez tout de suite chanté aussi, le Carnaval des animaux. C'est oui, c'est les premières œuvres écoutées.
Ah oui, oui, c'est vraiment l'enfance. Un 33 tours magnifique. D'ailleurs, sur la pochette, il y avait une peinture, je sais pas qui était l'artiste, mais plein d'animaux habillés au théâtre, un théâtre rouge et or, je sais pas, ça ressemblait peut-être à du Grandville, ou je sais pas, voilà, des illustrateurs que j'aime encore aujourd'hui, mais donc déjà l'image qu'il y avait sur la pochette me plaisait, et ensuite le son, ce qu'on vient d'entendre, et puis d'autres morceaux qui peuvent être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus primesauti également, mais oui oui, j'ai grandi avec ce disque, je le connais par cœur, les morceaux font rire, c'est très, une fois de plus ça, on dirait un dessin. C'est vraiment ça pourrait être un dessin, oui, de Granville ou de donc du 19e, ou même un dessin de Quentin Blake ou de Tommy Ungerer, ou c'est vrai que souvent quand j'écoute de la musique ou quand je lis des livres, j'associe ça au dessin, oui.
C'est votre mode d'expression en même temps.
Exactement.
Alors moi, j'ai choisi cet extrait-là, Le coucou au fond des bois, parce que vous avez grandi à la campagne.
Oui.
Catherine Meurice.
Exactement.
Depuis la tendre enfance?
À 7 ans. Moi, je suis née à Niort, donc j'ai vécu un petit peu dans la grande ville, à Niort City.
C'est un
magnifique jeu de mots, voilà. Et à 7 ans, mes parents nous ont emmenés, ma sœur et moi, à la campagne. Ils ont acheté une vieille ferme qu'ils ont retapée. Et je raconte ça dans ma bande dessinée, Les grands espaces. Et j'ai découvert, bon, je connaissais déjà la campagne, bien sûr, parce que j'avais des grands-parents à la campagne. Et tout ça était très familier, mais c'est devenu vraiment un lieu de vie à partir de mes 7 ans. Et j'ai tout de suite aimé. Les pierres, ce que racontent les pierres, ce que raconte la terre, le silence, les saisons, et le coucou, en effet, qui est l'oiseau qu'on guette au printemps. Quand on entend le coucou, ça veut dire que le printemps arrive. Et si on a une petite pièce dans sa poche, ça veut dire qu'on va devenir riche aussi. Donc il y a ce truc, quand on était gamine, on essayait d'avoir des centimes avec ma sœur dans la poche de notre jean pantachope, et on essayait de guetter le coucou. Et ça fait partie des oiseaux, oui, dont j'aime le chant, et qui rappelle l'enfance. Ouais.
Le rythme des saisons, c'est aussi le son des saisons. C'est possible, ça?
Oui, oui, vraiment. Oui, parce que les vents sont différents, donc apportent des sons différents, des odeurs aussi différentes. Et puis les animaux de la ferme ou sauvages s'expriment différemment. Les plantes sentent, n'ont pas la même odeur selon les saisons. Oui, bien sûr. Ouais, c'est... Ouais.
Leila Chaïeg avec l'ensemble Fiorita Musica sous la direction de Daniela Dolci, interprète le presto du concerto pour violon en sol mineur, opus 8 numéro 2, donc l'été de Vivaldi. On parlait des saisons, Catherine Meurice, et l'effet des saisons sur vous, mais il y avait aussi la musique des saisons qui vous a frappé dès l'enfance.
Ah oui, 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 les quatre saisons, le tube de l'enfance, oui, c'était mon premier CD. Et dans cette œuvre, je guettais toujours ce mouvement l'été qui me mettait en joie, mais j'aurais pu applaudir si je pensais pas plutôt écouter la musique. Et j'adore c'est une cavalcade naturelle. Enfin, on peut entendre en effet tous les végétaux, les arbres, l'eau. Enfin, j'adore ce morceau vraiment. Et ça aussi, c'est vraiment un morceau d'enfance. Ouais, j'ai grandi avec. Et Vivaldi, je l'aimais très tôt. Je me suis intéressée assez tôt à ses autres œuvres, voilà, pour m'éloigner un peu de ces quatre saisons qu'on entend partout. Mais ce mouvement de l'été, on l'entend pas quand on téléphone et qu'on patiente pour avoir la sécurité sociale, je sais pas quoi, on n'entend jamais l'été.
Non,
on entend toujours le printemps. Voilà, donc printemps, bon, ça suffit. Et l'été est moins connu et j'adore. Cette version est très belle en plus, ouais. Ouais.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On va pouvoir découvrir d'ailleurs, Catherine Meurice, que le baroque italien a joué son rôle dans votre vie. Mais avant cela, quand vous étiez enfant, dans les Deux-Sèvres,
exactement,
vous écoutiez de la musique. Ça se passait comment? Il y avait la télé, la musique, la nature?
La télé, pas trop, à part Béni Hill, le dimanche soir. Parce que mes parents et ma sœur, on aimait beaucoup rigoler. Donc voilà. Non, il y avait quelques 33 tours. Et en effet, j'ai découvert comme ça les vieux disques de mes parents. Je dis vieux disques parce que mes parents avaient ça déjà de leurs grands-parents ou d'amis plus âgés, etc. Ils avaient ça même depuis l'enfance. Donc j'ai découvert Chopin, la danse du sabre, des choses comme ça un peu exotiques. Et puis aussi Ferré, Brel, évidemment Barbara. Il y avait un disque avec ma sœur qu'on adorait, c'est Au temps du limonaire. Et c'était plein... Je crois que c'est hyper kitsch, je sais pas si je saurais écouter ça aujourd'hui, mais voilà, c'était un orgue de Barbarie qui reprenait toutes les chansons populaires et on adorait ça. Et aussi Claude Bolling. Alors Claude Bolling était très présent.
Avec son orchestre.
Voilà, avec son orchestre et l'arnaque. Et je me souviens que ça me faisait danser avec ma frangine, ouais.
Oui, donc c'était
une fête. Ouais, c'était là et c'était une fête à chaque fois. Vraiment, on mettait pas du tout de la musique pour pleurer, hein, plutôt pour se marrer et c'était là de manière très naturelle. C'est-à-dire que mes parents, voilà, travaillaient au jardin, dehors. Nous aussi, avec ma sœur, on a beaucoup joué dehors dans les tas de sable qui allaient servir à faire le ciment pour reconstruire cette vieille baraque. Et il nous arrivait aussi d'écouter la musique. Tout ça était mélangé. C'était
donc
super.
Les CD, c'est le moment de l'autonomisation de la musique de chacun qui développe ses goûts musicaux personnels, c'est ça?
C'est vrai, oui, oui. Avant, il y a eu la cassette. Je me souviens, ouais. Ma sœur avait une cassette de Sherazade. Et alors là, on l'a écouté mille fois. C'était magique, Sherazade. Et bon, après, non, mais voilà, le CD, Vivaldi, et puis d'autres, voilà, le baroque italien que j'ai découvert plus tard toute seule. Ouais.
Et puis l'apprentissage aussi du piano.
Exactement. Thank you.
Rêve Livia interprète Le Coucou pour piano de Louis-Claude Daquin. Le Coucou encore lui, Catherine Meurice. Je crois que vous l'avez joué au piano.
Oui, oui, oui. C'est le dernier morceau que j'ai su jouer au piano à 14 ans. J'ai appris le piano de 9 à 14 ans. Et je crois que je le jouais aussi vite que ça, ce qui épatait la galerie. Hein. Non, j'adorais ce morceau. Et j'ai appris le solfège, quel cauchemar. Enfin,
vraiment un cauchemar.
À la campagne, un peu. Enfin, disons que je voulais que ça aille très vite. Je voulais être Chopin tout de suite. Bon, ça peut pas marcher comme ça. Ou Rachmaninov. Non, d'abord Chopin. Et j'ai pris des cours à l'école de musique d'un petit village. Et j'avais donc ça c'était le solfège. Et sinon, je prenais des cours de piano. Et mon prof de piano, j'allais chez lui à la campagne. Ou alors lui faisait ses tournées. Vraiment, en voiture, il allait dans différents villages pour donner des cours aux gamins qui habitaient dans les campagnes. Et donc, il passait nous voir, je parle le mercredi à telle heure. Et j'ai appris d'abord la marche turque. C'était mon premier morceau, mon premier moment de fierté, peut-être. Et après, j'ai appris, voilà, j'ai joué pas mal de choses, du jazz également. Bon, souvent, c'était des versions un petit peu simplifiées pour enfants. Ouais. Et Le Coucou de Daquin, c'était le dernier morceau. J'ai changé de prof entre-temps, parce que mon prof, qui s'appelait Monsieur Lucas, me disait, bon, allez, maintenant, faut que tu passes à un stade supérieur, je vais te confier à un autre professeur. Et cet autre professeur venait d'un conservatoire national et a commencé à me donner des cours, a repris un peu les choses. Et puis, bah, apparemment, je mettais pas trop les pouces dans le bas. Enfin, bref, il y avait des trucs qui allaient pas. Moi qui savais jouer plusieurs choses de manière assez instinctive, ouais. Soudain, non, il fallait mettre les pouces comme ça. Bon, ça a commencé à être un peu terrible et j'ai arrêté. J'entrais au lycée à ce moment-là. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, les études. Et puis là, après, le dessin a pris la place.
Oui, parce que j'allais vous demander, le dessin, lui, il arrive à quel moment, en même temps que le piano, un peu?
Non,
après.
Il est là depuis toujours, dessin, ouais, depuis l'enfance, ouais, ouais, vraiment. Et puis c'est vrai qu'à l'école, au collège, au lycée, j'ai gagné quelques prix, des petites choses comme ça pour rigoler. Et c'est vrai qu'autour de moi, les professeurs ou les adultes me disaient, mais tu devrais peut-être en faire quelque chose. Puis j'étais jamais trop convaincue parce que j'étais un peu trouillarde. Et puis après, j'ai fait des études de lettres et je me suis spécialisée dans le dessin quand j'ai eu 19 ans, quoi, quand je suis rentrée à l'école Estienne. Donc j'ai attendu quand même pas mal. D'année, ouais.
C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas tout de suite légitime?
Bah, c'est pas ça, mais c'est que. Enfin, je me posais pas la question de la légitimité, mais le dessin était une pratique vraiment très, très courante. Et surtout, je voyais pas quel métier concret je pouvais faire. Vraiment, alors là, Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je suis passée à Charlie Hebdo en 2001, je me souviens. J'avais 21 ans et les gars de l'équipe m'ont dit, écoute, tu sais, bon, finis tes études si tu veux, mais enfin, tu peux revenir, etc. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est un métier. Et je me revois sortant de la rédaction, mais sautant de joie en disant, mais là, c'est un métier concret, je vais peut-être pouvoir faire ça. Et j'ai fait ça pendant 10 ans.
Thank you.
Der Unser Herrscher de La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin avec le chœur de chambre du RIAS de Berlin, le chœur d'État et de la cathédrale de Berlin sous la direction de René Jacobs, qui est un moment important dans votre vie, Catherine Meurice, puisqu'il correspond donc à ce moment où vous avez finalement assumé de faire Art déco et l'école Estienne.
C'est un peu ça. C'était plutôt à la fin de mes années d'études aux arts déco. Donc, en fait, je finissais mon cursus en art graphique. Et j'avais un copain qui, par ailleurs, était étudiant au Conservatoire National de Paris et qui était oboïste, et qui est toujours oboïste, d'ailleurs, qui m'avait invité à venir assister à une répétition de La Passion selon Saint-Jean, dirigée par Kurt Masur, qui faisait une masterclass à l'époque. Il m'avait dit, mais mets-toi sur la passerelle, fais tes petits croquis, on ne te verra pas, t'inquiète pas, etc. Et j'ai découvert les passions de Bach, déjà, parce que je connaissais bien Bach, les concertos brandebourgeois, etc., mais j'avais jamais entendu les passions. Et donc j'ai découvert cette passion selon Saint-Jean qui m'a transporté, notamment ce morceau d'ouverture qui fait décoller vraiment. Et donc je l'associe à ce souvenir de dessin une fois de plus, où j'ai passé des heures et des heures à observer les musiciens qui étaient des étudiants, et Kurt Masur qui interrompait parfois le mouvement pour faire répéter le hautbois ou autre chose, ou les violons. Et donc je voyais la partition décortiquée, je trouvais ça fascinant. C'était à la fois technique et artistique, et c'est un moment de bonheur, un souvenir de bonheur vraiment intense. Et puis Bach, quoi, qui m'accompagne maintenant toujours... Et dont je ne me lasse pas, et qui m'inspire, et qui m'émeut, et qui je trouve tellement profond. Enfin, j'ai l'impression que voilà, sa musique peut résoudre quelques problèmes ou répondre à des questions très personnelles, très intimes, de manière silencieuse. Enfin, dans notre tête, évidemment. Après, lui, c'est sa musique qu'on embrasse toute entière. Et ouais, Bach, c'est très important pour moi. Ouais.
Et dessiner, ça demande un sens de l'observation certain. Assister précisément à ce décortiquage de la musique, est-ce que ça vous a permis de faire coïncider la musique avec l'art graphique, puisque on est dans cette dentelle là aussi, non, j'imagine?
Oui, ça me permettait vraiment de voir de regarder très précisément les mains des musiciens, tous ces outils, les archets, les hanches, tous ces mots que je découvrais d'ailleurs, et vraiment de regarder, voilà, les poignets, les doigts, d'être très attentive au corps des musiciens qui ont contre eux ces morceaux de bois ou de cuivre dont sortent des sons extraordinaires. Et je sais pas si j'avais conscience de dessiner la musique. En tout cas, j'ai dessiné des musiciens et puis un maître formidable, enfin Kurt Masur, qui était quand même assez génial. Thank you.
Schmidt Ganzem, un anonyme qui figure sur un disque consacré à Léonard de Vinci et qui, Catherine Meurice, vous a accompagné lors d'un job d'été, je crois.
Oui, j'étais surveillante de musée quand j'étais étudiante à 18 ans, 19 ans, et là un peu plus tard, parce que l'expo a eu lieu en 2003, si je me trompe pas. Et c'était au Louvre. Et le temps d'un été, j'avais été agent de surveillance de l'exposition de Léonard de Vinci, une expo de dessin. Je me souviens m'être baladée dans les salles, souvent seule, ouais. à regarder de près les dessins de Vinci. Et ce disque a dû sortir en même temps que l'expo. Je ne sais pas quel est véritablement le lien entre les commissaires d'expo, le Louvre et ce disque. Mais j'avais entendu ces morceaux-là quand je surveillais l'expo. Donc une fois de plus, musique, dessin, musée, tout ça se mélangeait. Et cette musique, cette mélodie qui est assez entêtante, que j'aime particulièrement. C'est drôle parce qu'elle me rappelle à la fois Léonard de Vinci et en même temps elle fait le vide dans ma tête, quoi. C'est ça qui est assez formidable, c'est que il y a ce double mouvement où j'ai le foisonnement des œuvres graphiques de Vinci, des choses assez géniales, et puis en même temps il y a un son qui m'apaise et qui rend tout ça assez abstrait, comme s'il s'agissait d'une méditation en quelque sorte. Et j'aime bien la coexistence des deux, et c'est ce que je cherche, je crois, dans la musique ancienne que j'écoute beaucoup.
C'est aussi vous vider.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Être, vous disiez comment, surveillante? Non, c'est pas
surveillante. Agent de surveillance.
Agent de surveillance du Louvre, j'imagine que vous en avez profité pour dévorer tout le reste, enfin au Louvre, que vous avez fait toutes les galeries.
Bien sûr, je connais le Louvre par cœur et Orsay aussi. Le temps d'un autre été, j'ai été surveillante à Orsay et notamment les jours de fermeture. Ça, c'est génial parce qu'il n'y a plus aucun visiteur. On est seul face aux œuvres, devant les œuvres, dans les œuvres. On vit ce qu'on veut, on est totalement libre.
Et l'occasion aussi de découvrir Delacroix, donc j'imagine.
Bien sûr, oui, ouais. Delacroix au Louvre. Qui est vraiment exposé en majesté dans le grand salon du Louvre. Et oui, la barque de Dante, qui est un tableau que j'aime beaucoup, Sardanapale et d'autres. Oui, il est dans la salle des romantiques, enfin des grandes batailles, et puis aussi des tableaux assez romantiques. Il y a le radeau de la Méduse. Dante est pas très loin de la croix et le radeau est pas très loin de la barque de Dante. Oui, bien sûr, tous ces peintres me sont devenus très familiers, c'est une grande famille.
C'est comme ça parce que ce livre Delacroix, donc paru chez Dargaud, on sent qu'il y a une intimité entre vous et Delacroix, c'est de là que ça vient?
Est-ce que ça vient de là? Delacroix, j'ai l'impression que, comme Dumas, ils font partie de... Ils sont là depuis toujours, je ne saurais pas dater... Quand est-ce qu'ils ont débarqué? Oui, je crois que Delacroix, c'est ça. Je l'ai vu très tôt. J'ai dû voir ces tableaux de fauves et de chevaux quand j'étais enfant. On aime bien les animaux quand on est gamin, surtout à la campagne. Et puis plus tard, j'ai découvert les œuvres plus sérieuses, les sujets historiques ou même contemporains à Delacroix, la liberté guidant dans le peuple, etc. Et Delacroix a toujours été là. J'ai toujours aimé sa fougue, son austérité aussi, quelque chose de complexe. Je crois qu'il y a un mystère chez lui que j'aime bien. C'était pas un peintre qui était très très bavard. Pourtant, il était recherché par le tout Paris. C'est une sorte de dandy assez austère. Je le trouve intéressant. Et puis, c'est un dessinateur puissant. On l'oublie trop.
Bertrand Chamaillot interprète avec l'Orchestre National Royal d'Écosse, la direction de Stéphane Deneuve, les Djinns de César Franck. C'est une œuvre inspirée du poème de Victor Hugo, qui porte le nom des Orientales. Et en fait, Hugo a souvent inspiré César Franck. Et on sent, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais j'avais envie de vous faire ressentir les forces mystérieuses en fait, du ciel, la tempête, et bien sûr, ces couleurs orientalistes aussi. Ça nous ramène finalement à Delacroix.
À Delacroix, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en l'entendant, je ne connaissais pas cette œuvre de César Franck, mais ça me fait penser, oui, à justement un poème de Victor Hugo qui s'appelle Les Djinns. Et c'est un poème qui commence par des vers courts et qui grossissent. En fait, le poème a une forme
d'ouragan, en fait.
Voilà, qui grossit ouais. Et qui après va se... Oui, c'est ça, de tornade. Et c'est donc ces esprits malins, les djinns. Et déjà, la forme, graphiquement, est quelque chose qui est intéressant, très très beau dans ce poème de Hugo. Et non, c'est magnifique ce morceau, parce que ça comble un vide, parce que dans le récit que Dumas fait sur Delacroix, Dumas ne parle pas du tout du voyage en Orient de Delacroix. Il parle pas du tout des fermes d'Alger, etc., des tableaux quand même très très importants,
marquant, ouais.
Très marquants pour Delacroix comme pour nous spectateurs. Et peut-être que Dumas a voulu aller un peu vite, il faisait une causerie, hein, donc c'était devant un public, donc c'est une causerie et publiée qui fait 100 pages. Dans mon album, c'est plus évidemment ce que je l'ai illustré, mais à l'oral ça durait peut-être une heure, je ne sais pas. Mais alors oui, on ne parle pas d'Orient dans ce texte, donc voilà qui vient combler une frustration.
Oui, tant mieux. Ouais. C'est vrai que c'est la question quand même que je me suis posée en vous lisant. Et aussi, l'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi Delacroix via la voix de Dumas? C'est très original parce qu'en fait, on vous suit comme ça derrière la plume et on entend Dumas, mais on vous sent vous aussi, Catherine Meurice, derrière, comme si vous étiez la commentatrice du commentateur.
Bah, c'est-à-dire que, oui, le commentaire, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans le dessin de presse, que j'ai commencé à faire ça, et je l'ai fait longtemps, à Charlie notamment, et c'est vrai que je le fais parfois dans mes bandes dessinées, et là, je me faufile entre deux géants, Dumas, Delacroix, et cette association des deux, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on pense plus à, je sais pas, Georges Sand et Delacroix, mais justement, ce duo était original. Il se trouve que je suis tombée dessus par hasard dans une librairie il y a 15 ans. J'ai découvert ce texte et ça m'a tout de suite inspirée. La voix familière de Dumas autorise, en fait, m'autorise à me glisser, voilà, derrière lui, à faire des petites facéties. Je respecte totalement son texte.
Mais c'est quelqu'un que vous aimez depuis l'enfance,
mais bien
c'est ça?
Sûr, oui. Le Comte de Monte Cristo m'a fait vibrer. J'étais complètement amoureuse d'Edmond Dantès. C'était le premier livre que j'ai dévoré quand j'étais enfant, Le Comte de Monte Cristo. Puis, bien sûr, Les Trois Mousquetaires, etc. Et j'ai appris, comme beaucoup de lecteurs, l'histoire de France en lisant Dumas. Là, on apprend un petit peu l'histoire de l'art, mais sans que ce soit un cours, sans que ce soit docte, c'est ça qui est formidable, parce qu'il nous parle, on a l'impression qu'il pense plutôt à ce qu'on va bouffer après sa causerie, quoi.
C'est vrai.
Quel sanglier ou quel cochon de lait on va dévorer après, et on en salive d'avance, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs un album à recommander aussi aux enfants, parce que Dumas a cette façon de savoir s'adresser à un public, de populariser, en tout cas dans le bon sens du terme, son rapport à ce peintre. Et puis vous, derrière, petite souris, qui nous apportez votre regard sur Delacroix. Et alors Delacroix, c'est un peintre qui a compté.
Oui, bien sûr, qui est là depuis toujours. Et puis là, je me suis vraiment autorisée à peindre. Voilà, j'ai vraiment osé la peinture. Je suis un peu sortie de la case de bande dessinée pour peindre et interpréter librement les toiles de Delacroix. Et je crois que c'est ça, avec les grands artistes, les grands peintres, c'est ce bonheur-là qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on a le droit, en fait, de faire ça. On a le droit de les interpréter comme on veut, de les vivre, de les traverser comme on l'entend.
Et vous, comme lui, Delacroix, on lui reproche d'être un meilleur coloriste que dessinateur, mais vous êtes une merveilleuse coloriste.
Ah ben merci.
Thank you.
Philippe Jaroussky et Nathalie Stutzmann interprètent Sonata Lagrimar, l'acte 1, scène 11 de Jules César en Égypte de Handel, avec l'Orfeo 55 sous la direction de Nathalie Stutzmann. Alors, ça raconte le désespoir de la mère et de son fils, qui apprend que le pharaon les a trahis. Et donc, il a fait décapiter Pompée et il promet donc à la femme et à l'enfant une perpétuelle captivité. Les paroles, c'est « Je suis né pour pleurer, pour soupirer et je poursuivrai à jamais ma consolation par mes pleurs. Si le destin nous a trahis, je n'espérerai plus jamais en un jour serein ni heureux. » C'est tragique, Catherine Meurice, et à la fois c'est d'une puissance folle, puisque ces voix inversées entre la mère et l'enfant, l'enfant et la voix soprane et celle de la mère et la voix grave, c'est un air que vous avez beaucoup écouté.
Ah oui, 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 oh oui, c'est sublime. Je l'écoute à fond et je l'ai beaucoup écouté, notamment en dessinant un album qui s'appelle Le Pont des Arts, qui était sorti en 2012, qui est beaucoup plus rigolo que ce qu'on vient d'entendre. mais c'est pas grave, on peut écouter des airs tristes et faire du gag. Ça me laisse sans voix parce que ça me transporte. Tous les opéras de Handel me plaisent. Mais cet air-là, en particulier, Jules César, oui, c'est, je trouve ça bouleversant, bouleversant. Je m'intéresse pas forcément à l'histoire, à ce que chantent les protagonistes, pas toujours, en tout cas pas au début. Je me laisse vraiment guider par les airs, par la musique, et ça m'inspire et ça me met dans un état de concentration qui me permet de dessiner, calmement, je pourrais dire. Enfin, ça m'aide pas mal, ouais. Ouais.
Et à la fois, ça raconte cet état de désœuvrement dans lequel ils se trouvent tous les deux à ce moment-là, dans une forme de résignation et de beauté.
Oui, c'est ça, c'est la beauté qu'on retient en fait dans cette ère, et on peut imaginer voilà des corps qui vont se serrer. C'est un air aussi où, comment dire, un air de consolation, enfin de désolation et peut-être de consolation. En tout cas, il faudra penser à la consolation après. Et ça, c'est des choses qui m'ont trotté dans la tête plutôt en 2015 et après pour faire d'autres livres. Mais bien sûr, c'est la beauté qu'on retient. C'est sublime. Ouais.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et vous le dites, Catherine Meurice, vous venez de le dire, c'est après 2015, il faut trouver comment se consoler. Et à la fois, vous l'avez très bien raconté, l'attentat de Charlie Hebdo a d'abord quasiment effacé votre mémoire pendant un temps. Et puis, il y a eu comme une sorte de silence qui s'est installé.
Ah oui, il était impossible d'écouter de la musique en 2015, impossible. Le cerveau était saturé, il n'y avait plus de place, il y avait 100 000 informations à traiter. Chaque minute, presque, parce que c'était tellement inédit comme situation et incompréhensible que voilà, tout était, on était complètement désorientés. Et oui, je n'ai pas pu entendre le moindre son. Je le raconte dans légèreté, les premières notes qui arrivent doucement, c'est un air de Bach. C'est une chaconne de Bach que j'entends à la Villa Médicis. Je me suis enfuie à Rome pour essayer de suivre la beauté, de la chercher. Je sais pas si je l'ai trouvée. Enfin bon, voilà, c'est ce que je raconte dans La Légèreté. Et c'est Bach qui est venu toquer à la porte et me faire comprendre que le silence était certainement utile, m'avait permis de me recentrer et puis que je pouvais voilà ouvrir un petit peu une porte pour laisser entrer un peu de vie.
Et l'Arche de Noé aussi.
Ah oui.
Thank you.
Quatrième partie de Ecoli Ride Pacera, le duo Noé et Rad, donc de l'Arche de Noé de Michelangelo Falvetti. On a envie de danser là, Catherine Meurice.
Exactement, oui, c'est une danse, ouais. Ouais, je trouve ça, c'est la joie, c'est le. Et puis je trouve que c'est une musique extrêmement moderne en fait. C'est un air que j'ai découvert en 2016, donc un an après Charlie. C'est pour moi, symboliquement, c'est l'air qui me redonne un peu d'énergie ou d'appétit. C'est l'air de la, peut-être de la consolation, dont on parlait tout à l'heure, ou de la joie qui commence à arriver, ou de la légèreté, ou, et puis c'est l'arc-en-ciel. Enfin, j'avais vu une vidéo du directeur de Garcia Alarcón, pardon, qui explique qu'on entend l'arc-en-ciel en fait dans chaque mesure et que voilà les instruments décrivent un arc. C'est magnifique. Mmh. Enfin, et l'arc-en-ciel, c'est cette forme là arrondie très douce, et puis c'est l'espérance, et puis c'est aussi les couleurs, quoi. Donc c'est un dessin une fois de plus. Et ouais, c'est une musique presque de. C'est presque une récompense ou une musique d'accomplissement, je sais pas. C'est une musique qui me transporte aussi et qui. Je trouve que c'est la joie incarnée. C'est comme une réconciliation, en fait. Je sais pas. On entend ce cœur, là, qui, d'homme, de femme. Et puis, voilà, cet air dansant, ce rythme qui est là.
Mais si vous le permettez, justement, c'est très beau de vous entendre dire que c'est la beauté qui vous ramène à la vie. C'est tellement fort, la culture qui vous prend par le bras et qui. Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, à quel endroit, c'est simplement de pouvoir savourer cette beauté.
Ah, comment ça se passe, je sais pas. J'ai essayé de l'expliquer dans la légèreté, c'était pas facile. Alors je suis allée par petits morceaux, par scénettes. Je crois que on parlait de nature au début de l'émission. Je crois que ça m'a aidé aussi. Ça, il y avait un, je pense, un terreau, des petites choses qui étaient là, des petites racines qui devaient être là, et le fait d'avoir observé les arbres assez tôt, d'avoir regarder, sentir les saisons assez tôt. Je pense que ça, associé à la culture, la peinture, les arts, etc., ça m'a, même les monuments. Enfin, quand je suis allée me réfugier à la Villa Médicis, rien que les murs, l'épaisseur des murs me réconfortait, la lumière me réconfortait, autant que les Caravages que j'allais voir à Rome. Donc c'est ce mélange là du minéral, du végétal, et puis de ce que produisent les artistes, qui, je crois que c'est ça qui m'a aidé en fait à ne pas couler. Oui.
Cet arc-en-ciel que l'on vient d'entendre aussi, et qui, on va pour en parler dans quelques instants, mais qui figure parmi les œuvres que vous aimez, le baroque figure parmi les musiques que vous écoutez le plus, je crois.
Thank you.
Fonti del mio dolor de Stefano Landi, interprété par Dagmar Saskova, sous la direction de Manuel de Grange avec Il Festino. La musique baroque, on le disait tout à l'heure, Catherine Meurice, est très présente dans vos goûts musicaux. Est-ce que vous avez une explication à cela? Ou est-ce l'Italie tout court? Parce que...
non, parce que la musique baroque allemande, notamment, me plaît beaucoup, et même anglaise, et française. pourquoi? Je sais pas, il y a une sorte de pureté dans ces chants quand j'entends ces voix-là. Je sais pas pourquoi, j'imagine la lumière qui tombe sur une fontaine de pierre. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est que souvent les voix et les instruments se fondent. Enfin, c'est, voilà, un instrument peut venir un hautbois ou autre chose, ou même un luth, etc., peut venir converser, en fait, avec une voix. Parfois, les sons sont très proches. La voix humaine est très proche de la voix, du son de l'instrument. Et puis, il y a quelque chose, parfois, d'abstrait aussi, je trouve, dans cette musique, qui permet de penser différemment. Peut-être, je crois que c'est ce que j'attends de l'art, des peintures, des sculptures, de la musique, c'est que, voilà, ça me fasse penser un peu différemment, que ça me change un peu. Et c'est vrai que par rapport à la musique, qu'on dit classique, enfin les symphonies, etc. C'est que cette musique-là, c'est presque déjà une bande dessinée pour moi. Cette musique, elle est trop illustrative. Enfin, je l'aime beaucoup, hein, mais elle raconte presque trop. Là, la musique baroque, c'est prodigieux parce que ça nous laisse penser différemment. J'ai l'impression que ça donne de la matière au temps. Quelque chose de... C'est très lointain, puis en même temps, c'est très moderne, donc ça me plaît beaucoup.
Oui. On va se quitter avec Marin Marais, des pièces de viol du livre 4. Je voulais dire, avant de vous quitter et de quitter nos auditeurs, que votre album De la Croix, paru chez Dargo, est en fait un feu d'artifice. Il a quelque chose comme ça de très coloré, et en fait, on est heureux de savoir que la beauté vous a rendu autant de couleurs.
Ah, c'est gentil, et je fais des livres, je crois, pour me rendre compte que oui, en effet, peut-être que ça marche, cette recette-là de chercher la beauté. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous. un extrait des pièces de viol, livre 4 de Marin Marais, pour terminer cette émission en compagnie de Catherine Meurice, dont l'album De la Croix a paru chez Dargo, que je vous invite à vous procurer vivement. Merci à Pierre Monteil qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.